Enfin, le concours du temps. Car pour toute chose, il y a un cycle d'action et une période du mouvement divin. Quelle est cette période du mouvement divin?
Pour chaque chose, c'est différent. Pour chaque activité, pour chaque réalisation, pour chaque mouvement, il y a une période de temps définie et qui diffère. Il y a d'innombrables périodes de temps qui s'enchevêtrent, mais chaque chose est régie par une sorte de rythme qui est le rythme propre de cette chose. N'est-ce pas pour la facilité de leur existence extérieure? Les hommes ont divisé le temps d'une façon plus ou moins arbitraire, en années, en mois, en semaines, en jours, en heures, en minutes, en secondes, etc. C'est un rythme qui est plus ou moins arbitraire parce que il a été créé par l'homme, mais qui comporte en lui-même une certaine réalité parce qu'il correspond à des mouvements universels autant qu'ils ont pu. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, par exemple, nous fêtons les naissances, n'est-ce pas, le jour de naissance, parce qu'il y a un certain rythme dans l'existence de chacun qui s'établit par ce retour régulier des circonstances analogues à celles dans lesquelles il est né. Et tous les mouvements, quand on les observe, on s'aperçoit qu'ils ont un certain rythme. Le mouvement de conscience intérieure, par exemple, non seulement au point de vue de la compréhension, mais au point de vue des réactions personnelles, des hauts et des bas dans le progrès, leur retour assez régulièrement périodique à la fois de l'avance et des reculs, des difficultés et des aides. Mais si chacun est attentif, il s'aperçoit que son rythme est tout à fait particulier à lui. Ce n'est pas le même rythme que celui du voisin. Mais de même que les saisons suivent un certain rythme assez régulier dans l'ensemble, de même, la vie individuelle a ses saisons. Et quand on s'étudie attentivement, on s'aperçoit qu'il y a même certaines répétitions de circonstances analogues à des intervalles réguliers. Même des gens très sensitifs s'aperçoivent qu'il est certains jours de la semaine ou certaines heures du jour où ils peuvent faire les choses plus facilement. Il y en a qui ont des difficultés particulières à des jours et à des heures particuliers. Eh bien, il y en a au contraire qui ont des inspirations meilleures à des moments particuliers. Mais chacun doit trouver cela en lui-même en s'observant. Naturellement, c'est loin d'être absolu, ce n'est pas rigoureux. Et si c'est gênant, ça peut s'éliminer très facilement. Simplement avec un petit effort de volonté raisonnée. Mais si ça aide, on peut s'en servir. Et tout ça, c'est chaque chose ayant son rythme propre, eh bien, ça fait un entrecroisement de rythmes extrêmement compliqué qui fait ce que nous voyons, quelque chose qui paraît ne pas en avoir, parce que c'est trop compliqué. C'est trop complexe.
Comment est-ce qu'on peut s'en servir?
Bien. Si, admettons, n'est-ce pas, nous parlons du yoga. Si tu observes en toi une certaine répétition de conditions, que par exemple, à telle heure, à tel moment de la journée, dans telle circonstance, il t'est plus facile de te concentrer ou de méditer, eh bien, tu te sers de ça en le faisant à ce moment-là. Naturellement, il ne faut pas en devenir l'esclave. On peut s'en servir, mais il ne faut pas que ça devienne une nécessité et que si on a passé l'heure, on ne peut plus méditer. Mais si c'est une aide suffisante, on se sert de l'aide. Tout est une question d'observation. Si on s'étudie, on peut s'apercevoir que dans l'année, il y a certains moments qui sont dus non pas seulement à des conditions personnelles, mais à des conditions plus générales, des conditions de la nature en général. Il y a des moments où on rencontre plus de difficultés dans la sadhana. Et il y a des moments, au contraire, où on a en soi une plus grande poussée vers l'accroissement de connaissances et de conscience. Ça vous aide dans le sens que si à un moment donné vous vous trouvez en présence de difficultés spéciales ou de quelque chose qui ressemble à un arrêt, au lieu de vous lamenter, vous vous dites, tiens, c'est ce moment-là, c'est parce que nous sommes à tel moment de l'année et on attend avec patience que le temps soit passé. Ou en faisant ce que l'on peut, mais sans se décourager, en se disant, ah voilà, je n'avance pas, c'est pas de problème. Ça vous aide à être raisonnable. Et naturellement, on peut faire un pas de plus et prendre ses précautions de telle manière, des précautions intérieures, pour être indépendant de cette influence extérieure. Mais ça, c'est plus tard. C'est quand on est, on commence à être le maître conscient de sa sadhana. Ça, ça vient après. C'est tout. Rien par là.
Mais qu'est-ce que c'est que le lotus de la connaissance et de la perfection? Le lotus de la connaissance et de la perfection.
Qu'est-ce que tu demandes? Ce que c'est? C'est, n'est-ce pas? Vous, quand vous avez entendu parler des différents centres, et ces centres sont généralement représentés par des lotus qui sont d'abord fermés et qui s'ouvrent petit à petit à mesure qu'on progresse spirituellement. Le lotus de la connaissance, c'est le lotus aux 1000 pétales. Et celui-là. Alors, c'est celui qui est dans la tête. C'est le dernier dans l'ordre avant quoi. Ceux qui sont au-delà du corps.
C'est la perfection,
monsieur. Hein?
La perfection.
C'est le lotus de la connaissance, le lotus des aux 1000 pétales qui s'épanouit comme c'est le plus élevé. La perfection, ça dépend de quelle perfection.
Le lotus de la connaissance et de la perfection éternelle est un bouton fermé. Le plus haut
du bord. Et celui-là. Il y en a un au-dessus. Au-dessus de la tête, mais généralement, on n'en parle pas. Et dans l'ordre ordinaire, c'est le dernier à s'ouvrir. Je dis dans l'ordre ordinaire parce qu'il y a des cas où c'est autrement. Ceux d'en bas s'ouvrent après ceux d'en haut. Mais enfin, dans l'ordre ordinaire, quand on parle de l'ascension Kundalini, n'est-ce pas, du centre d'énergie, eh bien, c'est à mesure qu'il monte, il éveille les centres correspondants. Et celui-là, c'est celui qui l'atteint en dernier. Et en effet, quand c'est comme ça, quand il atteint celui-là, c'est le signe de la perfection dans l'ascension de l'énergie. Je crois que je vous ai déjà parlé de ces centres et à quoi correspond chacun d'entre eux.
par Jésus c'est écrit, rien ne peut être appris à l'intelligence qui ne soit déjà connaissance cachée. Alors est-ce que ça veut dire que celui qui n'a pas de connaissance cachée il ne peut pas l'avoir même
non. Ce n'est pas tout à fait comme ça. Ce que ça veut dire, c'est que toutes les choses sont contenues potentiellement dans la substance qui constitue l'homme. Seulement, l'organisation est différente suivant les individus et le degré d'éveil et de capacité de répondre est différent aussi. Et c'est ça qui fait la différence entre la possibilité des individus. Mais en fait, d'une façon essentielle, chaque être contient en lui-même toutes les potentialités universelles. Dans quelle mesure il est capable de les développer ? C'est une sorte de hiérarchie qui s'établit entre les individus et leur degré de développement. Mais essentiellement, dans chacun, il y a la présence divine et par conséquent la conscience suprême. Seulement, pour certains, pour qu'ils puissent en devenir conscients, ça prendra des milliers et des milliers d'années, et d'autres sont par suite des circonstances intérieures et extérieures, sont arrivés au moment où ils sont prêts à en prendre conscience. C'est plutôt une hiérarchie dans la réalisation qu'une hiérarchie dans les potentialités. Maintenant, il s'ajoute à ça que certains êtres manifestent autre chose qu'une conscience purement humaine. Mais ça, c'est une chose qui s'ajoute. Ce n'est pas une... Et ça devient des cas exceptionnels. Mais d'une façon générale, c'est comme ça. C'est la substance elle-même qui contient toutes les possibilités. Il dit plus loin, si le divin n'était pas en vous, jamais vous ne pourriez connaître le divin. C'est ça ce que ça veut dire.
Ici, il a dit, Bishop, brisons les téguments de l'âme. Quels sont les téguments de l'âme?
Oui.
Les téguments de l'âme.
C'est comparé à... C'est encore comparé à une plante, et c'est comme ce qui tient le bouton de la fleur fermé, ce qui l'attache pour ainsi dire, n'est-ce pas, le bourgeon ou la fleur, ce qui l'attache fermé, ce sont ces choses-là qui doivent se briser afin que la fleur puisse s'épanouir. Alors c'est la suite de la comparaison avec le lotus, n'est-ce pas, ce qui tient l'âme enfermée, qui l'empêche d'être partie et de se manifester. C'est ça qui doit être brisé, comme des liens, comme des attaches. Des choses qui tiennent fermées, enfermées. Ça doit se briser plus ou moins lentement afin que l'âme puisse s'épanouir comme une fleur. Ces attaches, il explique ce que c'est, n'est-ce pas? Je crois que c'est là qu'il dit que ce sont les... Écartant ce qui fait cet obstacle à son inévitable point de vissement, il dit plus loin, confiné par l'attachement aux apparences finies. Alors c'est la même chose, n'est-ce pas? C'est tout ce qui vous attache à la conscience ordinaire extérieure. Tout ce qui vous dit à la vie ordinaire. C'est ça qui nous fait comme ça, serré. Pour briser ça. Voilà, quelque chose par là.
Ici, on a dit en premier lieu la connaissance de vérité des principes, c'est-à-dire d'avoir une course, avoir le Shastra. Une course, avoir le Shastra, on a dit le Shastra suprême du yoga intégral et le Veda éternel garde des secrets dans le corps. Alors pour connaître le Shastra, d'abord il faut avoir faire une longue position de yoga.
Oui. Selon la formule ordinaire, c'est comme ça. Ça ne s'apprend pas du jour au lendemain, non? Personne ne le croit, je suppose. Seulement, il a fait, je ne sais pas, nous n'avons pas lu ça aujourd'hui encore, il a fait une distinction, il dit, nous, il va un peu plus loin, il parle. Nous verrons ça la prochaine fois. Il parle du gourou, non? La parole plus puissante du gourou. C'est plus loin. C'est-à-dire que s'il faut se préparer en étudiant les livres, c'est une préparation qui prend assez longtemps. Mais s'il se trouve qu'on peut justement recevoir un enseignement direct et en toutes circonstances. Alors ça va beaucoup plus vite. Quand on n'a personne pour vous guider et qu'on doit trouver son chemin par des livres, qu'on n'a même personne pour vous dire « lisez plutôt ce livre-là que celui-ci ». Quand il faut tout trouver par soi-même, ça prend du temps, beaucoup d'années. N'est-ce pas, ça fait une différence, les gens ne se rendent pas compte de ça. Ça fait une différence considérable de pouvoir poser la question à quelqu'un qui a réalisé la chose, c'est-à-dire qui a fait toutes les expériences et qui est arrivé au bout et qui a la connaissance de la chose. Je pouvais lui demander, est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça c'est utile? Est-ce que ça c'est nuisible? Alors, en une minute, on a la réponse, oui, non, faites ceci, lisez cela, ne faites pas ça. Et c'est tellement commode. Mais quand vous êtes tout seul, généralement dans un milieu qui n'est pas très favorable, ou en tout cas où les gens n'y comprennent rien, n'y pensent pas, s'ils ne sont pas hostiles. Il faut que vous trouviez tout par vous-même. Vous n'avez personne pour vous dire, eh bien, lisez ce livre-là, il est meilleur, il est plus vrai que celui-ci. Il faut que vous lisiez une quantité considérable de choses, que vous puissiez les comparer au-dedans de vous, comparer l'effet que ça vous fait, à quel point ça vous aide ou que ça ne vous aide pas. Naturellement, les gens qui sont prédestinés, ils sont guidés par le guide intérieur. Il se trouve qu'ils rencontrent le livre qu'ils doivent lire, ou la personne qui peut leur donner une indication utile. Mais ça, c'est au bout de quelque temps, ils s'aperçoivent qu'il y avait là une conscience. Ils ne savaient pas très bien ni d'où ça venait, ni comment c'était, mais qui a organisé leur vie, les circonstances de la vie, et qui vous a aidé à chaque pas à trouver juste la chose qui vous mènera plus loin. Mais ça, ce n'est pas très fréquent, c'est plutôt rare. Ce sont les gens prédestinés. Autrement, c'est difficile, ça prend du temps, beaucoup de temps. Et encore ça, c'est juste le début, n'est-ce pas? C'est de trouver les vérités sur lesquelles on établira son yoga. Ce n'est pas le yoga. C'est les principes généraux sur lesquels on va construire son yoga. Évidemment, ceux qui sont particulièrement intéressés, ils peuvent trouver quelque chose. Il va de soi que ceux qui sont dans l'Inde, c'est extrêmement facile. Extrêmement facile, il y a une tradition vivante. N'importe qui veut faire un yoga trouvera toujours quelqu'un pour lui donner un renseignement. Et même chez les plus ignorants et les plus impurs, il y a une vague impression de ce qu'il faut faire, de ce qui peut t'aider. Mais si vous vous transplantez en Occident, eh bien vous verrez comme c'est difficile. Avec tout tout un monde organisé, non pas seulement pour, non pas seulement indifférent, mais presque totalement contre, qui volontairement refuse de reconnaître cette réalité, parce qu'elle est gênante. Alors, quand ça vous vient au-dedans de vous, quand le besoin se manifeste, vous ne savez vraiment pas de quel côté regarder pour vous en tirer. Maintenant, c'est un peu mieux. Mais il y a 50 ans, c'était pas fameux. 50 ans, 60 ans, c'était difficile. Maintenant, on a fait des progrès. Il y a un petit peu plus de lumière là partout.
C'est une
phrase magnifique. Et c'est tout à fait vrai. Il y a aussi dans l'aperçu et pensée une phrase comme ça. Oui, je crois qu'il emploie le mot de Dieu au lieu d'infini. Mais c'est la même idée. Et c'est Dieu qui vous a choisi, le divin vous a choisi. Et c'est pour ça que vous lui courez après. Et c'est ça qui donne, c'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? C'est ça qui donne cette espèce de confiance, de certitude, justement, on est prédestiné. Et si on est prédestiné, même s'il y a des montagnes de difficultés, qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'on est sûr d'arriver. Ça vous donne un courage indomptable pour faire face à toutes les difficultés, et une patience à toute épreuve. Vous êtes sûr d'arriver. Et c'est un fait. En fait, c'est comme ça. De la minute où vous y avez pensé, eh bien, vous y avez pensé parce qu'on a pensé à vous. Vous avez choisi parce qu'on vous a choisi. Et une fois qu'on vous a choisi, vous êtes sûr de votre affaire. Par conséquent, les doutes, les hésitations, les dépressions, les incertitudes, tout ça, c'est tout simplement du gaspillage de temps et d'énergie. Ça ne sert à rien du tout. Du moment où on a senti seulement une fois au-dedans de soi, « Ah, ça, c'est la vérité pour moi. » C'est fini. C'est fini. C'est réglé. Même si vous passez des années à tailler votre route dans la forêt vierge, ça n'a pas d'importance. C'est fini. C'est réglé. C'est pour ça qu'un jour je vous disais, après tout, vous êtes tous ici parce que vous l'avez voulu quelque part. Et si vous l'avez voulu quelque part, c'est que le divin l'a voulu ainsi en vous. Alors, il y en a qui suivent un chemin tout droit et qui arrivent très vite, il y en a qui aiment les labyrinthes. Alors, ça prend plus longtemps. Mais le bout est là. La fin est là. Moi, je sais par expérience qu'il n'y a pas un être qui, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, n'a eu le grand élan vers n'importe comment il l'a appelé, mais mettons le divin pour la facilité du langage, qu'il soit sûr d'arriver, même s'il lui tourne le dos à un moment donné, ça n'a aucune importance. Il est sûr d'arriver. Il aura plus ou moins à lutter, plus ou moins de difficultés, mais il est sûr d'arriver un jour. C'est une âme qui a été choisie. Elle est devenue consciente parce que son heure était venue. Une fois que l'heure est venue, eh bien, le résultat s'en suivra plus ou moins vite. Vous pouvez faire ça en quelques mois, vous pouvez faire ça en quelques années, vous pouvez faire ça en quelques vies, mais vous le ferez. Et ce qui est remarquable, c'est que cette liberté de choix vous est laissée et que si vous décidez au-dedans de vous que vous le ferez dans cette existence, vous le ferez. Et je ne veux pas dire que vous décidiez d'une façon permanente et continue, parce qu'alors là, ça peut vous prendre 12 mois pour arriver. Non, je veux dire, si vous avez tout d'un coup été saisi par ça, je veux ça, même une fois, dans un éclair. C'est le saut qui est mis là, comme ça. Voilà. C'est pas une raison de perdre son temps en route. Ce n'est pas une raison pour justement suivre tous les méandres du labyrinthe et arriver avec, avec des déchets considérables quand vous serez au bout. Non. Mais c'est en tout cas une raison pour ne jamais désespérer, quelles que soient les difficultés. Moi, je suis d'avis, quand il y a quelque chose à faire, il vaut mieux le faire aussi vite que possible. Mais enfin, il y a des gens qui aiment perdre leur temps. Peut-être qu'ils ont besoin de tourner, retourner, faire beaucoup de détours avant d'arriver à l'endroit où ils doivent aller. Mais c'est une question de choix. Malheureusement, les gens qui ont cette habitude de tourner et retourner et se détourner et faire toutes sortes de méandres inutiles, ce sont ceux qui se plaignent le plus. Ils gémissent et ce sont les ouvriers de leur propre misère. Si on décidait d'aller tout droit sans chemin, coûte que coûte, savoir supporter un petit peu de difficulté, faire face aux désagréments sans faiblesse, eh bien, on s'évite beaucoup de tracas. Mais il y en a qui ne vont que si on les prend par la peau du cou et qu'on les tire avec une force terrible. Alors ici, ils crient qu'on leur fait violence. Enfin, c'est eux qui l'ont voulu. C'est tout? Quoi? Qu'est-ce qui parle d'enseignement spirituel?
Tout enseignement est une révélation. Il ne s'agit pas seulement de l'enseignement spirituel.
Je crois qu'il ne veut parler que de l'enseignement spirituel. Quand vous apprenez à ABC la conjugaison des verbes, je ne vois pas que ce soit une révélation. Yeah.